Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Les Antipodes.
Et bonsoir Twitch, bonsoir le podcast, je suis Hop, et vous écoutez le Rendez-vous de l'Étrange épisode 15, en compagnie de Xara Molly.
Bonsoir.
Bon Xara, une fois n'est pas coutume, tu reviens parmi nous, comment tu vas?
Super bien, j'espère que toi tu vas bien aussi.
Oui, ça va, c'est le début des vacances, donc début des vacances scolaires pour ma fille, donc
cool.
C'est l'été maintenant, tout va bien.
Bon, moi je reviens de vacances, mes prochaines vacances sont au mois de septembre, donc voilà.
Donc tu vas un peu bosser cet été, quoi.
ouais, mais j'ai congé les vendredis après-midi, donc c'est idéal pour enregistrer.
Au rendez-vous de l'étrange, c'est parfait.
Exact.
Mais en tout cas, ça fait bien plaisir de t'avoir pour cet épisode. Premier point que je voudrais aborder, et pas des moindres, il y a du nouveau sur Patreon. On peut maintenant s'abonner gratuitement en cliquant sur un petit bouton « Rejoindre la communauté ». Et donc, ça permet de s'abonner à tout le contenu public que je poste sur la plateforme. Donc, c'est le meilleur endroit pour suivre ce que je fais. Il y a un épisode de Thread Horror qui va sortir très bientôt. Donc, profitez-en, c'est gratuit. Donc, ça se passe sur patreon.com/je suis hop. Et tant qu'on parle de Patreon, j'en profite pour remercier les derniers patrons qui ont fait le choix de me soutenir financièrement. Donc, merci à Manon, Marine... encore Marine, Aurélie, Laurine, Audrey et Dildou. Et merci aussi également à Rémi, Rildo, ainsi que Raven d'ailleurs qui est présente ce soir, qui les a rejoints. Je les remercie à chaque épisode parce qu'ils ont choisi le palier RTV Ultra qui les propulse en tant que producteurs du podcast. Donc merci. Et donc voilà, c'était la partie soutien, communauté, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on n'attaquerait pas? De quoi tu comptais nous parler ce soir, Xara?
Oui, ce soir, je vous parle de true crime. Donc, je vous parle de la mort d'une Américaine de 41 ans dans des circonstances étranges. J'ai pas envie d'en dire plus.
Eh ben non, on dit pas plus. Tu nous en parleras tout à l'heure.
Oui. Et toi?
Eh ben moi, sache que je suis super content parce que je vais pas parler de true crime ce soir. Je vais parler d'un vol de diamants qui a eu lieu en 2003 et il est surnommé par beaucoup comme le casse du siècle car il est estimé à 100 millions de dollars et le butin est toujours dans la nature et on se croirait vraiment dans Ocean Eleven quoi. Donc je suis trop pressé de la raconter.
Ok.
Voilà et je te propose de commencer parce
qu'il y a un sondage.
Il y a un sondage. J'allais dire je te propose de commencer parce que je suis pas sûr que ma fille dorme. Mais on va voir si le sondage est en ma faveur. On est sur du Xara. Merci le chat. Merci le chat.
Mais oui, c'est mon tour. Donc, chers auditeurs, ce soir, je vous parle du mystère de la mort tragique de Tamla Horsford. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un décès qui laisse perplexe. Celui-ci s'est passé dans des circonstances très étranges, dans la nuit du 3 novembre 2018. À ce jour, les conclusions ne sont pas claires à savoir ce qui est réellement arrivé à Tamla Horsford, 41 ans, lors de sa dernière soirée en vie, alors qu'elle était dans une fête d'anniversaire. Est-ce que c'est un banal accident ou un meurtre déguisé? Personne n'a la réponse et la famille continue aujourd'hui de se battre pour avoir des réponses. Petit historique et contexte. Donc, on n'a pas trop d'informations à propos de la vie de Tamla Horsford. On sait qu'elle est née sous le nom de Tamla Saint-Jour le 10 octobre 1978 à Kingston dans Saint-Vincent et les Grenadines, c'est dans les Antilles. Donc sa famille a immigré aux États-Unis dans le Bronx étant à New York en 1989, elle avait 11 ans. Par la suite, elle a rencontré son mari, Leander Horsford, à l'âge de 24 ans. Celui-ci avait déjà une fille d'une union précédente. Et ensemble, ils ont élevé 5 autres enfants, qui sont tous des garçons. En 2018, au moment de son décès, le plus jeune avait 4 ans et la première fille de Leander attendait un enfant. Donc, ils étaient très, très heureux tous les deux d'être bientôt grands-parents. Donc, c'est sûr que c'est des jeunes grands-parents, mais quand même. La famille Horsford réside depuis 2013 à Cumming, dans le comté de Forsyth, en Géorgie. Ils ont déménagé du Bronx pour le travail de Leander. Et la Géorgie, pour ceux qui sont pas familiers, je fais toujours un petit suivi là. C'est un État américain dont la capitale est Atlanta. C'est situé dans le sud-est des États-Unis. On le sait, le sud des États-Unis a une certaine réputation là d'être assez conservateur. C'est d'ailleurs juste au-dessus de la Floride qui est un État très conservateur. Celui-ci aussi, d'ailleurs, à l'élection de Trump, ils ont élu à 72%. Le comté de Forsyth a voté 72% pour Trump contre 51% pour le reste de la Géorgie. Okay. Donc, le comté de Forsyth est particulièrement conservateur, je vous dirais.
J'imagine que c'est important si tu insistes autant.
Ouais, un peu. On verra tantôt.
OK.
Donc, la Géorgie, c'est le 8e État le plus populeux aux États-Unis. C'est quand même un gros État. Et le comté de Forsyth, en plus d'être extrêmement conservateur, est aussi le comté le plus riche et rapide à se développer au moment actuel. C'est aussi l'endroit en Géorgie où il y a le moins de diversité culturelle. Seulement 4% de la population est racisée, contre environ 32% dans le reste de l'État. Donc, Tamla, au moment des faits, tout juste 41 ans, parce que son anniversaire, c'est en octobre. Au moment de son décès, le 3 novembre, elle venait tout juste de fêter son anniversaire, pardon. On la décrit comme une personne chaleureuse, très pétillante et qui aimait beaucoup faire la fête. Et c'est probablement ici que Tamla s'est fait facilement des amis, notamment dans le cercle des mères de la Ligue de football junior locale. Ici, je parle de football américain, bien sûr. Et elle était extrêmement charismatique, prête à aider son prochain. Sa mère dit d'ailleurs que sa maison, c'était la maison de tous les enfants. Là. Donc, On avait tout ça quand on était jeune, la maison où tous les enfants se retrouvent là, parce qu'il y a des collations, parce que les parents sont super accueillants. Bon, c'est le cas ici de la maison de Tamla et de Leander. Donc, je vous fais un petit historique de la soirée fatidique. Le 3 novembre 2018 est une soirée aux apparences très ordinaires dans la maison des Horsford. Tamla, 41 ans et mère de 5 enfants, presque grand-mère, prépare une casserole pour le souper de sa famille. Par la suite, elle se prépare elle-même et met quelques vêtements, une bouteille de tequila qu'elle devait donner en cadeau et son pyjama à motif de pattes d'animaux dans un sac de sport. Elle s'apprête à quitter la maison familiale en prévision d'une soirée pyjama chez son amie Jeanne Meyers, qui célèbre son anniversaire ce soir-là. Prudente, la fêtée avise les gens qui comptent consommer de l'alcool de rester à dormir. On déduit que Tamla avait l'intention de dormir là-bas puisqu'elle a emporté avec elle son pyjama.
Okay.
Et peu après son arrivée à la fête, vers 20h30, Tamla se change et revêt son pyjama. Donc, les invités étaient conviés pour 19h, mais Tamla est arrivée plus tard parce qu'elle tenait à faire manger les enfants et se préparer avant d'arriver. Donc, Tamla fait partie d'un petit groupe d'une douzaine d'invités, principalement composés d'autres mères qui se connaissaient à travers la Ligue junior de football locale à laquelle leurs enfants participent. Au début, ça devait être une soirée avec seulement des femmes invitées. Toutefois, le copain de Jeanne l'a fêté. Il s'appelle José, 27 ans, et Tom, le mari d'une autre invitée, finissent par traîner et rester. En fait, c'est que Tom et sa femme ont un enfant adolescent qui faisait une fête à leur maison. Donc, en fait, Tom n'avait pas envie de retourner à la maison et de devoir gérer une bande d'ados. Ouais. Donc, ils ont décidé finalement de rester.
Okay.
Au final, il y a une douzaine de personnes qui passeraient la soirée et il y en a 8 qui prévoyaient dormir, dont Tamla. Donc, la soirée bat son plein dans une ambiance festive, mais assez relaxe. Les femmes discutent, boivent des cocktails, regardent aussi un match de football. Les hommes font de même, ils regardent le même match de football, mais au sous-sol. Au courant de la soirée, Tamla sort fumer des cigarettes et un peu de cannabis à plusieurs occasions durant la soirée, malgré les réprimandes de son amie Jeanne, qui n'est pas tout à fait d'accord avec les habitudes de sa copine. Donc, il faut savoir que Tamla, c'est la seule fumeuse de tout le monde qui est présent.
Okay.
Donc, c'est la seule qui rentre et qui sort pour aller fumer. À sa propre confession, Jeanne aurait appelé plusieurs fois son amie la Bob Marley féminine durant la soirée en la taquinant, ce qui est un peu de mauvais goût, on s'entend. Donc, je ne sais pas si on peut l'agrandir un peu, mais vous voyez Tamla au centre dans son pyjama blanc avec les petites pattes d'animaux. Vous constaterez que c'est la seule femme noire du groupe. Ça représente un peu ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a une faible proportion de la population dans le côté de Forsyth qui est racisée. Et c'était vraiment la seule personne de couleur à la soirée.
Et la photo là qu'on montre,
ouais.
C'est lors de cette soirée?
Oui, exact. C'est une photo okay. qui a été prise durant la soirée. Donc, on peut voir... T'sais, ça semble festif, les gens sont habillés en pyjama ou en vêtements de sport. Tamla semble proche des gens, je veux dire, sont très proches physiquement. La fille qui est à sa gauche, c'est Jan Meyers qui est la fêtée. Et j'ai les noms de tout le monde, mais ça sert à rien de tous les nommer. Mais bref, c'est les femmes qui étaient là. Il y en avait d'autres, il y en a une autre qui est arrivée plus tard, là, qui est pas sur la photo. Donc, les réticences de Jeanne face au fait, à la conservation de son amie viennent principalement du fait que son copain, José Barrera, qui est présent à la soirée, travaille comme officier au département de la justice et serait contre cette pratique. Donc, malgré sa consommation de tequila, de cocktails de cannabis, Tamla ne semblait pas particulièrement intoxiquée. Elle avait juste du plaisir. C'est ce qui est ressorti dans les témoignages. Donc, plus tard au courant de la soirée, les hommes vont se joindre à la fête et le groupe joue une partie de Cards Against Humanity. Tamla fait un appel vidéo à ce moment-là à ses enfants pour leur dire bonne nuit. Doit être autour de 10 heures. Donc, plusieurs photos et vidéos seront prises durant la soirée. On voit bien la complicité entre les femmes et l'ambiance est festive. Tamla est tout sourire, les autres aussi, comme l'indique la photo. Vers 11h30, certaines invitées qui prévoyaient pas dormir sur place se sont mis à quitter une par une. Ceux qui restaient sur place sont allés successivement au lit entre 11h30 et 1h30 du matin. Jeanne et José, qui sont les autres de la soirée, sont allés se coucher. Les seules personnes restantes sont Tamla et une certaine Bridget, qui ne restait pas dormir, mais son mari est venu la chercher à 1h47 du matin.
Okay.
Donc, à ce moment-là, Tamla est en train de manger un bol de soupe gumbo et elle a dit à Bridget qu'elle prévoyait aller fumer une dernière cigarette dehors avant de se mettre au lit. Donc, effectivement, le système de sécurité montre que la porte s'est ouverte, fermée et réouverte pour une dernière fois à 1h57, ce qui pourrait concorder avec une pause cigarette. Par contre, vous noterez que elle n'est pas refermée, la porte. Elle ne s'est jamais refermée. Donc, ça est ouvert, fermé et réouvert.
Ouvert, fermé, ouvert. Attends, je comprends pas.
Ouais. Donc, la porte s'est ouverte.
Ouais.
Et refermée. Donc, ça indique qu'elle est sortie dehors et qu'elle a refermé la porte derrière elle.
OK.
Et la porte s'est réouverte, mais elle n'a pas été refermée.
OK.
À 1h57. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est sorti et qui n'a pas refermé la porte? Ou c'est elle qui a tenté d'ouvrir la porte et qui ne l'a jamais refermée?
Ou alors, elle serait rentrée avec quelqu'un un peu de force et n'a pas fermé la porte? Ou...
On ne sait pas.
Okay.
Ça, c'est sûr que c'est vraiment difficile de dire ça. Donc, à noter que le système d'alarme enregistre aussi le garage qui s'ouvre et se ferme entre 1h30 et 1h40, mais personne ne sait pourquoi. Et Bridget sera supposément la dernière à voir Tamla vivante. Donc, le matin du 4 novembre, le lendemain vers... c'est pas le lendemain, en fait, c'est plus tard dans la nuit, vers 8h45 du matin... La tante de Jan Meyers, qui réside dans la maison, elle s'appelle Madeleine Lombardi, elle se rend dans la cuisine pour préparer son café matinal. Donc, elle va voir par la fenêtre quelque chose de blanc dans le gazon. Et en s'approchant, elle constate qu'il s'agit de Tamla, qui est face contre terre, étendue de tout son long dans une position assez étrange. Je vais vous la décrire tout à l'heure, la position. Donc, elle ne bouge vraisemblablement pas. Elle ne semble pas respirer non plus. Donc, rapidement, elle va faire une prière et elle va monter informer Jeanne et José qu'il y a quelque chose cloche avec son amie des îles.
Ah là là là.
Oui, okay. Oui, elle a dit ça. bien que Tamla soit arrivée aux États-Unis à 11 ans, c'est toujours comme ça qu'elle est décrite. C'est un peu bof.
Ouais, c'est là qu'on reconnaît effectivement l'état, comme tu décrivais tout à l'heure.
Mais c'est comme de l'espèce de racisme sous-jacent. C'est pas direct, mais c'est juste comme empreint de...
C'est ancré. Donc, ils s'en rendent pas compte.
Ouais, c'est vraiment... T'sais, c'est comme dit à la légère, là, mais en même temps, bon, c'est une vieille dame. J'imagine qu'il y a quelque chose d'un peu générationnel là-dedans, mais en même temps, j'ai le goût de dire qu'il y a quelque chose de culturel là-dedans aussi.
Oui.
Mm-hmm. Dans le chat, ça s'enflamme. Ouais. Je savais que ça ferait réagir un peu les gens, mais même moi, j'ai un peu roulé des yeux en disant ça. Là, donc, effectivement, racisme normalisé, racisme ordinaire, c'est tout à fait ça.
Et qui choque personne là-bas, j'imagine, quoi.
Ben, tu sais, c'est comme le truc de Bob Marley, la Bob Marley féminine. Tu sais, c'est comme, c'est pas nécessaire de la comparer.
Ouais.
En tout cas, c'est, je trouve juste que c'est d'apparence une blague, mais tu sais, en fait, ça sert à personne.
Mais du coup, elle devait entendre des trucs comme ça à longueur de journée, quoi.
Ben, probablement. Donc, évidemment, bon, Jean et José descendent, constatent bien que quelque chose cloche avec Tamla, et ils vont loger un appel au 911 un peu avant 9h. Donc, l'appel, on va vous le mettre dans la description de l'épisode parce que il dure une dizaine de minutes. Donc, vous pourrez l'écouter en entier, mais vous verrez que personne ne semble paniquer. C'est vraiment un appel bizarre.
Ah oui?
Ouais, c'est vraiment un appel bizarre. Au début, c'est Jeanne qui parle. Puis, elle fait juste décrire son amie en disant qu'elle ne bouge pas puis qu'elle est raide. Dans le sens, en anglais, c'est stiff, là. C'est comme ça qu'il, je sais pas si je dis raide ou rigide, tu sais, rigidité cadavérique, là, bref, elle est, tu sais, elle bouge pas puis elle semble pas, il y a rien qui bouge. Et là, il va avoir la répondante du 911 qui demande plusieurs fois, est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle semble vivante? Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? Puis il fait juste, là, finalement, elle passe le combiné à José qui, parle avec une espèce de... Il est tellement détaché, là. C'est vraiment spécial. Tu sais, je sais pas vous, mais moi, si quelqu'un, une de mes amies, meurt chez moi, sur mon terrain, je vais être en grosse panique, là.
Mais en vrai, tu sais pas trop. Tu sais pas comment tu réagirais, tu vois. C'est un cas tellement... Déjà, j'espère que ça t'arrivera jamais, déjà.
Ben, j'espère.
Mais tu vois, je pense pas qu'on puisse prévoir notre réaction. Un événement,
mais c'est vraiment spécial. Puis tu sais, José, je vais en reparler tantôt, mais il passe tout l'appel à essayer d'hypothéser qu'est-ce qui s'est passé. Ben peut-être que elle a fait ci. Ben peut-être que elle a fait ça. Tu sais, au lieu de juste répondre aux questions de la répondante qui lui demande de vérifier si elle respire, de vérifier si elle est correcte, tout ce qu'il répond c'est she's stiff.
Ouais.
Elle est rigide, disons. Puis il enchaîne en disant je pense qu'elle avait bu, j'imagine qu'elle est tombée du balcon. Okay, tu sais, avec quand même pas mal de désinvolture, j'imagine qu'elle est tombée du balcon. Donc, en effet, la maison comportait deux étages avec un balcon qui possède une rambarde d'environ 1,10 m et le corps se trouvait sous le balcon. Donc, à l'arrivée des secours, ils constatent le décès et emmènent Tamla à la morgue dans un sac noir pour y être autopsiée. À ce moment, la seule hypothèse des corps de police est l'accident. Aucune autre hypothèse n'est considérée. Donc, elle serait tombée du deuxième étage. Il y a une enquête qui dure environ 4 mois. Et le comté de Forsyth détermine que la cause de la mort est accidentelle. Donc, pendant un bref instant, ils ont pensé qu'elle se serait peut-être enfargée les pieds dans l'espèce de rebord en bois que vous voyez. Ça c'est au rez-de-chaussée, là.
Oui.
OK? C'est la vue un peu que la tante a eue de sa cuisine. Donc, elle se serait peut-être enfargée les pieds dans le petit rebord en bois et serait tombée face contre terre. Donc, le rapport du légiste suggère une intoxication à l'alcool. Le taux dans son sang est de 0,23.
C'est pas grand-chose.
Il y a aussi du THC. Ouais, c'est environ 3 fois la limite permise pour conduire.
Je me rends pas compte. Tu veux dire qu'on peut, elle peut pas conduire, en fait? Elle a 3 fois de trop pour conduire?
Oui.
OK. Okay.
En fait, la limite pour conduire, ils l'ont descendu. En fait, la limite pour conduire, c'est 0,08 dans le sang.
OK, alors, je ne sais pas en France combien c'est. Si dans le chat, vous le savez. Ah, bah oui, effectivement, déjà, il y a Petit Ewok qui dit c'est en pourcentage au Canada et nous, c'est en grammes par litre.
Oui.
Donc,
c'est ça.
Ouais, c'est pour ça, quand tu me disais 0,25, je disais, normalement, ça va, quoi. Mais effectivement, on n'est pas sur la même échelle.
Non, puis c'est à peu près trois fois ce que tu aurais le droit de consommer pour conduire, pour vous donner une échelle.
Ouais, voilà. Okay.
Puis il y a aussi du THC qui est présent dans son sang, mais rien d'autre.
OK.
Donc, ce niveau d'intoxication-là, c'est assez élevé. Ça peut être associé à des symptômes comme des pertes de mémoire, des pertes de coordination ou des vomissements. Donc, ça a été un facteur qui a contribué à dire que c'était un accident puis qu'elles étaient peut-être tombées ou qu'elles avaient peut-être essayé de monter sur la rambarde, qu'elles seraient tombées. Donc, en plus de ça, dans le rapport du légiste, on note des traumas à la tête, des égratignures sur le corps qui pourraient être cohérents avec une chute.
Ouais.
Donc, il y a aussi une cigarette neuve et un briquet qui étaient sur le balcon. Et selon les alertes du système, eux, ils ont compris qu'elle serait allée dehors vers 1h57, soit la deuxième fois que la porte s'est ouverte.
OK.
Et serait tombé en bas sans refermer la porte.
Ouais, d'où comme tu disais, la porte qui se referme pas, quoi.
Ouais. Donc, ça l'a ouvert à 1h47, ça l'a refermé à 1h47, mais ça l'a réouvert à 1h57, puis eux, ils disent que c'est à 1h57 qu'elle serait sortie. Mais bon, on sait pas. Donc, José Barrera a dit à ce moment-là à la police qu'il y avait une caméra de sécurité qui existait pour l'arrière de la maison. Il en a même parlé durant l'appel au 911. Mais par la suite, évidemment, vous comprendrez qu'il n'y avait pas de pile.
Ah là là,
dans la caméra. Ouais, le mystère autour de ça, c'est que la famille, elle, n'a jamais cru à cette hypothèse de l'accident et a toujours pensé qu'on tentait de leur cacher quelque chose, que les invités à la fête savaient plus que ce qu'ils ont dit. Avec ce que je lis dans le chat, j'ai l'impression que vous aussi. Donc, 2 ans plus tard, la famille commande une deuxième autopsie auprès du bureau d'investigation de la Géorgie. Donc, c'est une autre institution. Là, au début, c'était le comté de Forsyth qui avait fait l'enquête. Donc, ils veulent avoir un deuxième avis sur la mort de Tamla. Donc, la deuxième autopsie dénote plusieurs traumas qui ne sont pas les mêmes qu'à la première autopsie. Donc, il y a des traumas importants au niveau de la tête, mais aussi au niveau du cou, au niveau du torse et au niveau des extrémités. Ça inclut des contusions et des égratignures au visage. On note aussi une dislocation du poignet avec une blessure externe sur le poignet. D'ailleurs, lors de l'appel du 911, José aurait dit « on dirait qu'elle a essayé de se suicider ». Donc, une autre affaire qui a balancé durant l'appel. Je sais pas. Il y a aussi une lacération au ventricule du cœur. Ça, c'est bizarre parce que c'est comme à l'intérieur. Je sais pas, ça peut être dû à quoi, un gros stress ou je sais pas. Et il y a aussi une fracture au cou. Moi, je ne suis pas infirmière, mais s'il y a quelqu'un dans le chat qui travaille en santé, dites-nous qu'est-ce qui peut causer une lacération au ventricule du cœur. On ne sait pas à quelle heure elle est morte.
On sait qu'elle est sortie à 1h57.
Oui, et on sait qu'elle n'est pas rentrée. Mm. Elle a été découverte à 8h45.
Il y a Raven qui dit elles se sont battues. C'est aussi... Le résultat de la deuxième autopsie le laisse pas mal à penser, je trouve.
Ouais, exactement. Donc, on commence franchement à douter qu'une chute, que ce soit d'en bas sur la photo, c'est encore moins crédible, ou d'en haut, on commence à douter là, qu'une chute soit à l'origine de toutes ces blessures. La chute peut être une conséquence, ou ça peut, mais vraiment, on commence à douter que ce soit réellement la chute qui soit la cause du décès. Donc, est-ce que ça pourrait être des blessures de défense? Est-ce qu'elle pourrait s'être battue justement avec quelqu'un et jetée en bas ou trébuchée? Ça peut-être. Ça commence à être un petit peu plus ça commence à être un petit peu plus réaliste là.
Et puis franchement, au deuxième étage, la rambarde est carrément trop haute pour tomber sans faire exprès, quoi.
Ouais, ouais. Je sais, moi aussi, je me dis ça depuis le début, ouais, mais à moins qu'elle ait grimpé, puis tu sais, c'est ce que José a essayé de dire, tu sais, elle s'est jetée en bas, mais je veux dire, Tamla, c'était pas une fille qui était suicidaire.
Elle avait aucune raison de se suicider, elle avait...
Non.
Ouais, ok. T'sais, elle avait 2 enfants, je crois, ou 3 enfants, tu disais?
5 enfants.
5 enfants.
Et elle attendait d'être grand-mère en plus. Ouais. Donc, il y a un autre point important qui vient semer aussi le doute dans la tête de l'enquêteur. C'est que la position du corps dans laquelle est retrouvée Tamla est vraiment étrange. Donc, essayez de figurer, là, elle est face contre terre, littéralement le visage entré dans la terre. Là. Vraiment face comme ça. Donc, son cou n'est pas retourné d'un côté ou de l'autre. Normalement, là, quand on tombe, OK, d'une certaine hauteur, soit qu'on tente de se protéger avec ses mains. Quand on tente de se protéger avec nos mains, ça fait un espèce de mouvement de torsion. Donc, en fait, normalement, on ne tombe pas complètement face vers le haut, vers le bas.
Et je pense que tu as aussi le réflexe quand même de tourner la tête pour te protéger le nez ou...
Ouais. Ben là, c'est comme si elle était... Puis c'est là où ils ont pensé qu'elle était réellement tombée d'en bas parce que c'est vraiment plus le genre de chute de quand tu tombes de plus bas parce que tu n'as pas le temps de te rattraper.
Oui, sauf que quand tu tombes d'en bas, tu n'as pas toutes ces les lacérations, voilà, tout ce qu'elle
exactement.
A
eu. Ouais. En fait, c'est ça. Ça, c'est son visage. Ensuite de ça, son cou n'est pas retourné d'un côté ou de l'autre. Les jambes sont complètement droites avec les deux pieds qui pointent vers la droite. Donc, les pieds sont comme sur le côté. Son bras droit est près du corps, la paume vers le haut. Donc, c'est vraiment cohérent avec le visage qui est vers le sol. Donc, c'est vraiment comme quelqu'un qui face plant, là, carrément. Mmh. Son bras gauche est vers le haut. Donc, vers le haut de son visage, comme ça, avec la main fermée.
Mmh, OK.
Donc, c'est à ce moment-là que l'hypothèse qu'elle soit tombée du rez-de-chaussée, vraiment intoxiquée, revient, mais en même temps, les blessures sont trop importantes pour que ce soit considéré comme une réelle option.
Mmh. Après, effectivement, donc, là, effectivement, si elle était intoxiquée, comme tu dis, elle a peut-être moins de réflexes aussi dans
peut-être.
Sa chute.
Ben justement, c'est un des... Tu sais, à ce taux d'alcoolémie-là, on juge qu'elle aurait pu avoir des problèmes de réflexes, là, de coordination. Donc là, on a un problème. Parce que la scène de crime, ça n'a jamais été une scène de crime.
Ah oui.
Ça n'a jamais été considéré comme une scène de crime. Elle était déjà morte à l'arrivée des secours, puis on a toujours pensé que c'était un accident. Donc, la scène n'a pas été sécurisée. On n'a pas relevé d'empreintes. Il n'y a pas eu d'examen pour agression sexuelle. Ils n'ont rien regardé en dessous des ongles, ce qui est généralement fait là, pour prélever de l'ADN. La bouteille d'alcool n'a pas été testée pour voir s'il y avait eu du GHB dedans. Donc, on n'a jamais fait d'enquête. Mais là, c'est 2 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On peut plus refaire l'enquête, là. On a juste les résultats d'autopsie qui sont louches. Pour la famille, ça a toujours été considéré comme une paresse de la part des policiers.
Ouais, ou du racisme.
Comme s'ils n'avaient pas voulu faire l'enquête. Vous voyez où je m'en viens, mais la famille a toujours considéré qu'on n'aurait pas traité le cas de la même façon si la victime n'avait pas été noire. Donc, le mouvement Black Lives Matter a d'ailleurs repris cette histoire. La famille tente toujours de rouvrir le cas auprès du FBI, d'avoir une enquête indépendante aussi. Puis il y a des artistes comme T.I., 50 Cent, Gabrielle Union et Kim Kardashian qui se sont emparés du cas et tentent de faire connaître les droits des personnes noires aux États-Unis et la mort de Tamla. Ils ont fait une pétition sur change.org où ils ont récolté plus de 600 000 signatures et leur position par rapport au cas, c'est que Tamla aurait été victime d'un crime et que la police fait tout pour l'ignorer. Donc, je ne veux pas partir de débat ou quoi que ce soit, mais...
Ben, en tout cas, on peut pas le savoir tant que la police n'a pas fait son travail dans tous les cas, quoi. Là, on peut pas dire que la police a réellement fait son travail.
Ben, c'est juste le fait de ne pas considérer d'autres hypothèses que l'accident. Pour moi, c'est un peu...
Clairement.
De la négligence.
Ouais.
T'sais. Est-ce qu'elle est morte avant de tomber du balcon suite à une altercation? Est-ce qu'elle est morte en tombant? Qui voudrait tenter de camoufler un crime? Qui a fait ça? Qui est responsable et qui est au courant d'informations? Il y a plusieurs personnes qui pensent que, par exemple, José Barrera serait impliqué. Je vous explique un peu pourquoi. Donc, il y a plusieurs faits étranges qui concernent la soirée, qui viennent un peu brouiller les cartes. Puis, il y a plein d'autres hypothèses que je vous mettrai des liens que vous pourrez aller lire. Je voulais pas toutes les dire parce que ça, j'en aurais pour vraiment longtemps. Mais bon, selon le témoignage des autres personnes, elle semblait vraiment OK. OK, donc je sais qu'il y avait 3 fois le taux d'alcoolémie dans son sang, mais apparemment, c'était quand même une bonne buveuse. Et selon les autres, ça y en prenait quand même beaucoup pour être... paf, là.
Elle tenait bien l'alcool, quoi.
Ouais, c'est ça, pour le dire comme ça. Puis elle semblait vraiment OK, elle avait pas un discours incohérent, elle titubait pas, donc ça enlève un peu de crédibilité à la thèse qu'elle était super intoxiquée puis qu'elle s'est jetée en bas, là. Pas eu de ça serait vraiment étonnant là, qu'elle ait eu une genre de psychose d'intoxication. Là. On n'est pas là du tout. Donc, après l'autopsie, après l'enquête, il y a une des filles qui était présente à la soirée qui a essayé tous les scénarios dans lesquels on pouvait essayer de passer par-dessus la rambarde pour voir si c'était possible. Elle dit qu'elle ne comprend pas comment elle aurait pu tomber. Elle ne croit pas du tout qu'elle soit tombée. Là, apparemment, c'est vraiment impossible de passer par-dessus volontairement sans... c'est involontairement tomber en bas, là, ça se peut pas.
Oui, oui.
Il aurait fallu qu'elle veuille ou que quelqu'un la mette en bas.
OK.
OK. J'arrive sur José Barrera, qui est le chum de Jean Mayer, qui était la fêtée, on se rappelle. Donc, lui, il a déjà travaillé comme agent de probation pour le comté. Et au moment du drame, il était agent qu'on appelle pré-procès. Donc, j'imagine qu'il faisait de l'analyse de dossiers ou de la consolidation de dossiers avant les procès. C'est un espèce de poste civil au département de la justice. Donc, on a appris qu'il a été mis à la porte de son emploi après avoir tenté de consulter plus d'une dizaine de fois le dossier de police de Tamla, auquel il n'y avait pas accès. Donc ça, c'est sûr, les gens sont assez sceptiques des raisons. Il n'a jamais dit pourquoi il avait tenté de consulter le dossier. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Là. En plus que durant l'appel au 911, il n'arrête pas d'essayer de mettre des hypothèses plus farfelues les unes que les autres. L'enquête n'est même pas commencée. Là. On parle au 911. Là. Qu'est-ce que tu fais à essayer de trouver des idées de comment qu'elle s'est rendue là? C'est vraiment spécial.
Il cherchait à se couvrir dès le départ, quoi.
Bon, on dirait, tu sais, puis il fait beaucoup d'inférences, là. C'est vraiment bizarre. Vous irez l'écouter. Il y a aussi le fait que les témoignages des 12 personnes se contredisent ou ne sont pas cohérents. Il y en a plusieurs qui semblent mal à l'aise lors de leurs témoignages, mais pas tristes. Il n'y a pas comme personne qui pleure sa mort, là. C'est vraiment spécial. Il y a un réel désintérêt aussi de la police. En effet, là, ça a été vraiment long avant qu'ils interrogent les amis. À ce moment-là, il a demandé des photos de la soirée, puis il y en a plein déjà que soit qu'ils avaient pu. Ensuite de ça, lorsqu'ils ont refait l'enquête 2 ans plus tard, il y en a plein qui avaient changé de téléphone, il n'y avait plus les photos, il n'y avait plus les messages. T'sais, ils n'ont pas pu, ils ont vraiment pas fait le travail en profondeur. Il n'a pas demandé à ce moment-là de voir. T'sais, ça, c'est la première enquête. Considérant que pour eux, c'était sûr que c'est un accident, ils n'ont pas enquêté plus loin. Ils n'ont pas demandé à voir des échanges textos, des photos et autres. Puis les questions qui sont dans les témoignages indiquent qu'il était... Lui était tellement certain que c'était un accident, il n'arrêtait pas de demander des questions par rapport à la consommation d'alcool de Tamla.
Ben oui, oui.
Combien qu'elle a bu, combien de fois qu'elle est sortie fumer du cannabis, est-ce qu'elle marchait droit, est-ce que, tu sais, il posait pas de questions par rapport au comportement des autres gens,
c'est ça,
qui était où, quand.
Il n'y avait jamais eu de vrai interrogatoire bien complet.
Non.
Ils étaient directement biaisés par leur avis, quoi.
Tout à fait. Mm. Puis, tu sais, il était comme un peu, il creusait pas non plus les réponses. Puis, il y a quelque chose de vraiment weird, c'est quand Meyers a eu son interrogatoire, donc la Jean, là, la fêtée, elle a apporté des cartes cadeaux de Dunkin' Donuts aux policiers.
OK.
Ça sonne comme, tu sais, essayer d'être gentil, puis comme, tu sais, comme ton ami vient de mourir, là, qu'est-ce que tu fais? Bref.
Ça fait limite pot de vin, hein, franchement.
Ben, un peu, tu sais. Puis, au moment actuel, ben, ça fait 5 ans, la famille est toujours en train d'essayer de réouvrir l'enquête, qu'il y ait autre chose qui soit faite. Vraiment, personne n'est convaincu que ce soit ça. Puis, personne n'a été accusé, personne n'a été interrogé, puis ça en est au même point. Donc, voilà, c'est ce qui conclut l'histoire. J'ai pas plus de réponses par rapport à ça, mais c'est sûr que pour les groupes comme Black Lives Matter, il y a eu une discrimination faite par rapport à l'enquête, puis on a vraiment ignoré ça. On a fait le strict minimum pour essayer de trouver ce qui s'était vraiment passé. Donc, c'est pour ça que la famille essaie d'en savoir plus. Et si ça a été un meurtre ou qu'il y a eu une agression, au moins qu'on puisse...
On est sûr, quoi.
Punir les personnes qui le méritent. Par contre, comme ça fait 5 ans, ça va être compliqué, je pense, de trouver plus de preuves. Mais surtout qu'ils doivent uniquement se fier sur des preuves circonstancielles ou des témoignages. Puis si tout le monde se tient, on n'aura pas de réponse.
C'est ça le problème, c'est que ça fait un peu trop longtemps
ouais.
Et ils ont eu le temps de supprimer tous les trucs qu'ils voulaient sur leur téléphone, même dire j'ai changé de téléphone.
C'est ça.
ça va être compliqué d'avancer, sachant qu'a priori, ils n'ont pas l'air très motivés à rouvrir l'affaire déjà, rien que ça, quoi.
Non, puis tu sais, il y a une des personnes qui dit que dans l'appel, tu sais, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des recherches par eux-mêmes, qui ont réécouté l'appel 911. Puis apparemment, à un moment pendant l'appel, on entend comme en background qui dit qu'il aurait touché les fesses. Fait que tu sais, il y en a qui pensent que Rosé serait sortie pendant qu'elle fumait, aurait tenté de l'agresser, elle se serait débattue, il se serait battu, puis elle aurait fini en bas du balcon. C'est la théorie qui circule, impliquant Rosé, puis peut-être que sa femme ou sa blonde était au courant, peut-être que non, mais clairement, elle tente de faire tout pour pas que ça pointe vers lui, tu sais. En même temps, moi, si j'apprenais que mon chum avait essayé de toucher mon ami, je suis pas certaine que j'essaierais de le défendre, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, là.
Ouais. Après, s'ils étaient nombreux, il y en a peut-être qui se sentent la conscience pas tranquille et qui finiront par parler. C'est le seul truc qui pourrait faire avancer l'enquête, en fait.
Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez d'autres théories, qu'est-ce que vous avez à en dire, mais en tout cas, dans la description de l'émission, on va vous mettre le lien vers l'appel 911 et un article du Rolling Stone qui fait vraiment état de toutes les hypothèses qui ont été proposées.
Ouais. Moi, j'en pense que c'est quand même vraiment dommage. On sent qu'on est passé à côté de quelque chose, tu vois. Déjà, la caméra qui a plus de pile, tu sens qu'il y a des trucs à cacher, quoi.
Il a dit qu'il y avait une caméra qui avait filmé, puis il n'y avait plus de pile après. Je veux dire, entre le moment où il a appelé le 911 puis qu'il a dit ça, puis le moment où ils sont venus enquêter, il n'y avait plus de pile. Mais je veux dire, il aurait pu changer les piles pour des piles qui ne marchent pas. Il aurait pu, je sais pas, tu sais, dans le sens où il a peut-être dit ça pour faire bonne conscience, pour que ça soit enregistré parce que l'appel est enregistré, là, donc il peut dire ce qu'il veut, puis les gens vont dire, ah ben non, c'est sûr que c'est pas lui, là, il a dit qu'il y avait une caméra, puis tu sais, il était prêt à collaborer, mais dans le fond, peut-être pas, là. On le sait pas. On sait rien.
Ben, j'espère qu'un jour, on fera, peut-être dans un an ou deux, on fera un épisode 2 avec la réponse, peut-être.
J'espère.
Ouais, pour la famille, ce sera important en tout cas. Personne ne dira rien maintenant qu'ils s'en sont sortis. Bah, c'est ça le problème, quoi. Sauf un cas de conscience, quoi.
C'est dommage. C'est vraiment dommage. Puis ça me fait beaucoup de peine pour sa famille. Là. On se rappelle, son plus jeune avait 4 ans. C'est quand même 5 enfants qui se ramassent pas de mère. Là. S'il y a vraiment eu quelqu'un qui l'a agressé, c'est triste. Là.
Ouais, parce qu'elle a laissé pas mal de monde derrière elle, quoi.
Ouais.
En tout cas, merci Xara pour ton affaire.
Ben, ça fait rondement plaisir, menée. J'espère que ça vous a plu.
Ouais. Eh bien, écoutez, est-ce que ce serait pas à mon tour?
Oui, je pense que c'est rendu à ton tour.
Pour ce sujet, je vais changer complètement de ce que je fais habituellement. Je vais pas vous parler d'un meurtre ou d'une disparition, mais bel et bien d'un braquage. Un très gros braquage qui a eu lieu il y a 20 ans, en 2003. Au Diamond Center en Belgique. C'est un bâtiment qui contient une chambre forte, censée être inviolable. Donc certains le surnomment le casse du siècle, car nous avons affaire au plus grand braquage de diamants de l'histoire. Ce sont environ 100 millions de dollars en diamants qui ont été volés en une nuit, en quelques heures. Pour cette affaire, je vous propose qu'on se mette dans le mood un peu Ocean's Eleven, avec une petite dose de mystère en plus. Ça va être plutôt cool. Le Diamond Center, situé à Anvers, en Belgique, est le cœur névralgique du commerce mondial des diamants. Près de 80% des diamants bruts extraits dans le monde transitent par ce centre. Tout le quartier autour du Diamond Center tourne autour de ce commerce. On appelle d'ailleurs le quartier le kilomètre carré du diamant. Il recense 1800 compagnies et 30 000 emplois du secteur. Et on estime qu'il brasse environ 30 milliards d'euros chaque année. La salle des coffres, qui abrite les diamants et les bijoux, elle est située 2 étages en dessous du Diamond Center. Elle est protégée par 10 mécanismes de sécurité multiples, notamment une porte de 3 tonnes à combinaison électronique, des capteurs magnétiques, il y a des caméras de surveillance, des détecteurs de chaleur infrarouge, un capteur sismique. On y reviendra plus tard, je vais vous expliquer comment ils ont fait pour passer tout ça.
My God.
Mais je vous propose d'abord de vous présenter les membres de l'équipe qui ont braqué le centre durant la nuit du 15 au 16 février 2003. Le groupe se composait donc de 5 voleurs italiens, connue sous le nom de l'École de Turin. La figure de proue de ce groupe, c'était un homme nommé Leonardo Notarbartolo, né en 1952 à Palerme, en Sicile. Notarbartolo, c'était un voleur professionnel qui a commencé sa vie criminelle à l'âge de 6 ans après avoir volé un laitier local. Alors, de ce que j'ai lu, il était entré pour acheter du lait à la base. Mais le truc, c'est que le laitier, il était endormi derrière à son poste, en fait. Il en a profité pour voler la caisse et plusieurs litres de lait en plus.
Du gros crime, ça.
Ou du gros crime, ouais. Mais en tout cas, c'était peut-être un petit crime, mais il y a quand même une nouvelle passion qui est née ce jour-là chez lui. Malgré le fait que sa mère l'ait battu pour ça, quand même, faut le noter.
Mandou.
Il avait des compétences exceptionnelles pour manipuler les gens, et il était capable de comprendre le comportement de ceux qui l'entouraient. En gros, il avait un bon instinct pour juger les gens. Et c'est grâce à cet instinct qu'il a monté l'équipe. Le deuxième membre était surnommé Speedy. Il était décrit comme un homme anxieux et paranoïaque. Speedy, c'était un ami d'enfance de Léo Notarbartolo. Le reste du groupe avait des réserves sur sa présence dans l'équipe, son tempérament fragile étant considéré comme un risque. Mais Notarbartolo a insisté pour qu'il fasse partie de l'équipe. Je ne sais pas si c'était un bon move, on en reparlera plus tard. Le troisième membre était surnommé The Monster, le monstre, parce que c'était un gars musclé, intimidant et connu pour sa force physique. A priori, c'est lui qui aurait suggéré au groupe ce braquage en 1997. Il était électricien, mécanicien, expert en mécanisme de serrure et très bon conducteur. Ça fait un gars plutôt bon pour les braquages, du coup.
J'imagine très bien.
Le quatrième membre de l'école de Turin était surnommé le génie. Il était spécialisé dans les systèmes d'alarme. C'était également un expert en électronique, déjà connu de la police, car il avait déjà fait d'autres braquages. Et enfin, le cinquième et dernier membre du groupe était surnommé le roi des clés. C'est d'ailleurs le seul membre qui n'a jamais été appréhendé par la police et dont on n'a aucune piste sur l'identité, on ne sait pas qui c'est. On sait juste qu'il était plus âgé que les autres et que, a priori, c'était l'un des meilleurs forgeurs de clés au monde. Son implication a été essentielle pour contourner les mécanismes de verrouillage de la chambre sans déclencher l'alarme. Donc ça fait une bonne petite équipe, hein ?
Ouais, il y a Valentine qui dit que ça lui fait penser à Baby Driver.
Ah ouais, c'est vrai. J'avoue.
C'est vrai.
Mais
moi aussi.
Mais en fait,
c'est très cliché, tu sais, les personnages, dans le fond, que tu décris. Je pense que ça l'a probablement inspiré certains films, là, c'est sûr. Ça.
Bah, non, mais carrément. Je pense que ça a été une inspiration. Parce que là j'ai l'impression, en fait, de décrire un film, en fait. En mode, bon, mm-hmm. on décrit le groupe. Ils sont tous un peu caricatural, tu vois. Ils ont tous, il est bon, il conduit bien. Lui, il est costaud, on va en avoir besoin.
Lui, il est intelligent, il est capable de... Il connaît l'électronique, puis dans le fond, il est pas physiquement, c'est pas le plus en forme, mais il faut le cliché.
D'ailleurs, je crois que la Paramount a acquis les droits pour en faire un film, mais ils l'ont pas encore fait. Donc, ça viendra peut-être un jour. Donc, maintenant que nous avons l'équipe, je vais vous raconter la chronologie. Il faut savoir que ce genre de casse ne peut pas se prévoir en une journée. Le groupe a méticuleusement planifié son braquage pendant un an et demi.
Un an et demi ?
Ouais, 18 mois. Pour s'assurer que le braquage se déroule efficacement et sans accroc, il fallait que le groupe connaisse absolument le complexe par cœur et surtout connaître toutes les mesures de sécurité. Le premier problème, c'est qu'il fallait pouvoir entrer dans le bâtiment. Et pour ça, il fallait être dans le business du diamant. Alors, Notarbartolo, il a pris des appartements non loin du Diamond Center et il a créé une entreprise. Il a ensuite pris rendez-vous avec la gérante du Diamond Center et a prétendu vouloir faire du commerce entre Turin et Anvers. La gérante a accepté et lui a donné le bureau numéro 64 au cinquième étage du bâtiment B, une place de parking et surtout un coffre dans la chambre forte. Tout ça pour 700 euros par mois.
700 euros.
700, ouais, 700 euros. Tu peux, si t'es une entreprise, pour 700 euros par mois, tu peux avoir un bureau et ton coffre fort.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Faut pouvoir sortir les 700 euros, mais avec ça, t'es officiellement dans le commerce du diamant et surtout, tu peux accéder à la chambre forte si un jour tu veux voler le Diamond Center.
C'est ça.
Notarbartolo avait donc maintenant une bonne raison de se rendre dans la salle des coffres pour pouvoir l'examiner, comprendre les mesures de sécurité et surtout déterminer comment les contourner. À chaque visite, il en profitait pour prendre des photos Il avait un stylo avec un capteur photo caché, comme dans les films d'espionnage des années 2000. Bah, il avait ça. Et lors de l'une de ses visites, il a placé une caméra juste au-dessus de la porte du coffre-fort qui était dirigée vers la serrure. Et donc, le groupe, il a pu analyser les vidéos. Ils ont réussi à déterminer le code pour contourner le premier verrou, grâce à cette caméra. Mais vous imaginez bien qu'avoir la combinaison de cette serrure, c'était pas suffisant. Car la salle disposait de bien d'autres mesures de sécurité et bah, pas mal de capteurs. Et le groupe, ils pouvaient pas se planter, sinon ils finiraient tous en prison. Alors, ils ont décidé de s'entraîner pour perfectionner leur technique. Et pour ça, ils ont construit une réplique grandeur nature de la chambre forte dans un entrepôt. Et donc, le groupe a pu simuler le braquage un nombre de fois incalculable, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de leur coup et que chaque étape soit maîtrisée à la perfection. A priori, quelqu'un les aurait aidés pour financer cette réplique, mais on ne connaît pas l'identité de la personne. Ça fait aussi partie du mystère de l'affaire. Parce que il faut se rappeler qu'il fallait quand même débourser 700 euros par mois pendant 18 mois.
Ouais.
Et également réussir à faire une réplique grandeur nature de la chambre forte. Toujours est-il qu'il a fallu beaucoup de patience avant que le groupe puisse enfin passer à l'action. Mais ce jour-là est finalement arrivé. La journée juste avant le braquage, le 15 février 2003, Leonardo Notar Bartolo, a de nouveau visité la chambre forte dans le cadre d'une inspection de routine de son coffre. Mais cette fois, alors que personne ne le regardait, il a arrosé les capteurs thermiques avec de la laque pour cheveux. Ce qui permettait de les rendre HS temporairement sans éveiller les soupçons. Le temps serait limité, mais le groupe pourrait revenir un peu plus tard sans déclencher les capteurs thermiques. Le braquage s'est donc passé la nuit du 15 au 16 février 2003, juste après minuit. Leonardo attendait à l'extérieur, à bord du véhicule, qui leur servirait pour s'évader, pendant que les quatre autres hommes s'occupaient du braquage. Pour un complexe aussi important, la sécurité laissait quand même quelque peu à désirer, car les quatre hommes ont pu s'introduire dans le complexe via un bâtiment adjacent au Diamond Center. Et en plus de ça, à cette époque-là, il n'y avait pas de garde de nuit le week-end.
Ok, pourquoi ?
Parce que je pense qu'ils étaient trop confiants sur leur système de sécurité. Ils avaient une squad qui s'appelait la Diamond Squad qui pouvait arriver d'une minute à l'autre. Mais le problème, c'est que s'il n'y avait aucun capteur qui se déclenchait, bah, personne n'arrivait en fait.
Ok.
Mais c'est vrai que pour un bâtiment comme ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des gardes postés aux portes. Et ce n'est pas le cas.
Ben, surtout si tu me dis que c'est quand même un quadrilatère où il y a plusieurs entreprises, que clairement, ça devrait être surveillé plus que ça.
Alors peut-être qu'il y avait certaines entreprises, tu vois, qui faisaient bien leur travail aux alentours et qui étaient correctement surveillées. Mais ce n'était pas le cas du Diamond Center qui contenait quand même la chambre forte. Quoi.
Ok.
Est-ce qu'ils sont sécurisés maintenant ? Eh bien, j'espère pour eux. Je pense que la sécurité a dû pas mal évoluer, surtout que c'était quand même il y a 20 ans. Je pense que quand tu perds 100 millions de dollars, tu t'en tires quelques idées pour améliorer ton système de sécurité.
Tu t'assures que ça n'arrive pas une deuxième fois.
Pour rentrer dans le bâtiment, ils ont donc dû désactiver une caméra infrarouge. Et pour ça, l'un des hommes, donc c'était le génie, il a utilisé un bouclier en polyester pour s'en approcher. Et ensuite, il a laissé le bouclier devant la caméra. Le polyester a des propriétés spécifiques qui empêchaient la caméra de détecter la présence du groupe. Ensuite, il a désactivé une alarme sur les fenêtres du balcon. Et donc, juste en désactivant ces deux systèmes, ils ont pu entrer dans le bâtiment sans aucun problème. Le groupe s'est ensuite rendu dans l'antichambre de la chambre forte, donc la pièce juste avant la chambre forte. Avec toute la reconnaissance que Notar Bartolo avait faite, il savait qu'il y avait des capteurs de lumière. Ils les ont donc recouverts de sacs en plastique noir. Ils ont éclairé la pièce seulement avec leur lampe frontale pour éviter d'avoir une source lumineuse trop élevée. Maintenant qu'ils étaient dans l'antichambre, il fallait maintenant entrer dans la chambre forte. Sa serrure était sécurisée par deux plaques magnétiques, une fixée sur la porte et l'autre sur le mur. Si ces plaques étaient séparées, le champ magnétique se désactivait et une alarme se déclenchait. Le génie a alors créé une plaque en aluminium sur mesure qu'il a fixée afin de garder le contact. Il a donc pu dévisser l'aimant fixé sur la porte sans que l'alarme se déclenche. Concernant la combinaison de la porte, parce que c'était pas, il y avait aussi une combinaison, ils avaient réussi à l'obtenir, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à la caméra que Notar Bartolo avait cachée dans l'antichambre. Par contre, cette combinaison ne suffisait pas pour ouvrir la porte. Il y avait aussi une clé physique qui était nécessaire. Mais le groupe a remarqué, donc sur les images de sécurité, que les gardes avaient tendance à entrer dans un placard juste à côté avant d'ouvrir la porte. Ils ont théorisé que la clé était cachée dans cette pièce, et c'était le cas. Donc là, il y a eu un facteur chance. Par contre, même si ça n'avait pas été le cas, le roi des clés avait prévu une réplique de la clé grâce aux images qu'ils avaient visionnées, et a priori, ils auraient quand même pu passer. Ils ont quand même préféré utiliser la clé originale pour éviter que les services de sécurité sachent que la clé pouvait être produite. Avant d'entrer dans la chambre forte, ils ont éteint toutes leurs sources de lumière, car il y avait de nouveau des capteurs de luminosité à désactiver. Le génie est donc entré dans le noir. Il a relié les câbles électriques du capteur de lumière pour fermer le circuit électrique, en fermant en fait le circuit électrique. Maintenant que les capteurs se déclenchent ou non, et ben l'alarme resterait muette. Par sécurité, ils ont quand même scotché le capteur de lumière. Ils ont mis une boîte de polyester sur le capteur de chaleur que Leonardo avait laqué quelques heures plus tôt. Et ils ont travaillé à la lampe frontale. Ils avaient de toute façon besoin que très peu de lumière, comme je le disais, hein, parce qu'ils avaient mémorisé l'intérieur par cœur, tu vois. Ils ont ouvert une centaine de coffres à l'aide de leurs outils maison. Et une fois qu'ils ont rempli tous leurs sacs, vers 5h30 du matin, ils sont remontés à la surface pour rejoindre Notar Bartolo pour charger la voiture. Et donc, ils ont pris vraiment tout ce qu'ils pouvaient prendre, mais ils n'ont pas ouvert tous les coffres. Ils ont ouvert une centaine, 120 je crois, sur 160. En sortant, ils ont également volé les séquences de caméras de sécurité enregistrées sur les caméras à l'intérieur du bâtiment. Ils avaient tout prévu. Quelques heures plus tard, c'est le concierge qui a découvert que la chambre forte avait été cambriolée. La Diamond Squad, donc l'équipe en charge de la sécurité du bâtiment, est descendue pour les vérifier, puis elle a alerté la police de la ville. Dans la pièce, il y avait pas mal de bijoux, enfin de boîtes à bijoux, de sacs vides qui étaient éparpillés partout. Il y avait même des bracelets en diamant qu'on estimait à plus de 35 000 euros qui étaient laissés sur le côté, parce qu'ils n'avaient pas assez de valeur, tu vois, pour l'équipe.
Ouais.
La valeur totale du braquage était estimée à environ 100 millions de dollars, ce qui lui a valu une place dans le Guinness Book des records. Nous avions affaire à un casse parfait et efficace, tout était impeccable, mais tout était sur le point de basculer à cause d'une erreur de débutant. Maintenant que le braquage était terminé, l'école de Turin devait maintenant se débarrasser de toutes les preuves incriminantes. Le jour d'après le braquage, alors que le groupe voyageait en voiture entre Anvers et Bruxelles, Speedy était complètement en panique. Il était persuadé que la police était à leur trousse. Et malgré les tentatives des autres membres pour le rassurer, il a commis une erreur fatale. Il a jeté hors de la voiture un sac poubelle plein de preuves sans les brûler. Et comme ils étaient en pleine campagne et qu'ils avaient effectivement peur d'être poursuivis, ils ont laissé le sac, pensant qu'ils ne seraient jamais retrouvés. Et ça aurait pu être le cas. Hein. L'affaire, tu vois, elle aurait pu s'arrêter là. Mais le problème, c'est que le terrain sur lequel ils avaient jeté le sac, elle appartenait à un agriculteur qui surveillait énormément ce qui se passait sur sa propriété.
Oupsie.
Il lui a pas fallu longtemps pour découvrir le sac poubelle abandonné. Et pensant qu'il avait été largué par des adolescents, il en a informé la police. Les agents ont d'abord été réticents pour aller voir l'agriculteur, parce que cet agriculteur, il avait l'habitude d'appeler la police pour tout et n'importe quoi. Mais lorsqu'ils lui ont demandé de l'ouvrir, tu vois, pour décrire au téléphone ce qu'il y avait dedans, et qu'il leur a dit en direct « bah, je crois qu'il y a des diamants dedans », et ben, ils se sont empressés de venir lui rendre visite.
Non.
Après avoir examiné le sac poubelle, les policiers ont trouvé pas mal de choses. Donc il y avait effectivement quelques diamants, il y avait une bouteille de vin, des pots de yaourt vides, des sandwichs à moitié mangés. Il y avait aussi une carte d'identité portant le nom d'Elio Donorio. Un nom déjà connu des services de police, principalement pour des vols de véhicules et de trafic de cocaïne. On pense que c'est l'identité du génie. Car oui, on connaît le nom de tous ceux qui ont été arrêtés, mais par contre, on fait que supposer quand on fait les liens entre les noms et les alias qu'ils utilisaient. On ne sait pas, voilà. Okay. Pour Elio Donorio, on pense que c'est le génie, en tout cas.
Bon.
Dans le sac, il y avait aussi un document déchiré qui, une fois recollé par la police, portait le nom d'une société appelée Damoros Prediosi. Désolé pour mon accent italien. C'était l'entreprise qui appartenait à Notar Bartolo et qui occupait les locaux du Diamond Center. Lorsque les policiers ont visité l'endroit, ils ont trouvé que des bureaux vides, il n'y avait rien du tout. Cette entreprise permettait juste à Notar Bartolo d'accéder au bâtiment et à la chambre forte. Il n'en avait pas besoin.
C'est un front.
Ouais, exactement. Ils se sont donc penchés naturellement sur Notar Bartolo et ils ont remarqué ses nombreuses visites à la chambre forte ces derniers mois et le fait qu'il portait toujours un cahier pour prendre des notes avec lui. Ils ont aussi remarqué que son coffre-fort avait été l'un des seuls à ne pas avoir été pillé ce soir-là. Mais même avec les articles trouvés à l'intérieur du sac poubelle, ils avaient besoin de preuves supplémentaires. Ils ont donc, dans un premier temps, arrêté Notar Bartolo pour le placer en garde à vue. Et pendant que l'interrogatoire avait lieu, ils se sont rendus à son domicile, à Anvers, et ils ont trouvé sa famille en train de nettoyer l'appartement.
Ah!
Sa famille...
Le ménage du printemps.
Et exactement, tu vois, on était en au printemps, en plus on était en mars, il me semble. Hein.
Ben tu vois, il aurait pu insister plus sur le ménage du
exactement.
Printemps.
Ok, donc sa famille n'a répondu à aucune question, mais la police n'en avait pas besoin. À l'intérieur, les policiers ont découvert le même ruban adhésif qui avait été utilisé pendant le braquage. Ils ont également trouvé la carte SIM qu'utilisait Speedy et qui prouve qu'il se trouvait au Diamond Center la nuit du braquage. Et en plus de ça, pour enfoncer le clou, ils ont trouvé des diamants sur un tapis à l'intérieur de l'appartement. Ils avaient trop de diamants, je te dis. Et c'était le même type de diamant qui avait été trouvé dans le sac poubelle. Là, on peut dire que les preuves étaient accablantes.
Ouais.
Mais malgré tout ça, Notar Bartolo n'a jamais avoué quoi que ce soit pendant son interrogatoire. Interrogatoire qui a duré 8 heures, quand même. Il a donc été arrêté en mars 2005. Il faut savoir qu'en Belgique, tous les vols sont traités de la même manière et que la durée de la peine ne varie pas en fonction de la valeur des biens volés. On est généralement sur une peine de 5 ans de prison. Notar Bartolo en a cependant reçu 10. Donc j'imagine qu'il y a quand même des petites variations quand t'es à 100 millions de dollars, tu vois.
Bah oui.
Concernant les autres membres, comme je vous l'ai dit, on a leur identité, mais on ne sait pas officiellement quel était leur pseudo durant le braquage. C'est donc Elio D'Onorio qui a été appréhendé peu de temps après. On pense que c'est le génie, mais il a nié son implication dans le braquage. Ses empreintes digitales ont cependant été retrouvées sur le ruban adhésif qui avait été utilisé pour couvrir les capteurs à l'intérieur de la chambre forte. Il a donc été condamné à 5 ans de prison. Ensuite, Ferdinando Finotto, on pense que c'est le monstre, en raison de sa carrure, il a été arrêté en Italie en novembre 2007. La police est remontée jusqu'à lui grâce à des billets qui se trouvaient dans la chambre et qui ont été retracés. Il a également été condamné à 5 ans de prison. Puis enfin, Pietro Tavano, sûrement Speedy, il a également été arrêté et condamné à 5 ans de prison. Il reste donc un membre, le roi des clés, qui n'a jamais été arrêté et dont nous ne connaissons toujours pas l'identité à l'heure actuelle.
Mais tout le monde a gardé le secret.
Tout le monde a gardé le secret. Aujourd'hui, tous les hommes ont purgé leur peine et sont libres. Ils vivent leur vie à travers le monde. Mais si la police n'est plus à leur trousse, ils sont quand même assez observés. Et a priori, aucun d'entre eux ne vit dans le luxe et profiterait du butin. Mais il n'en demeure pas moins que les diamants volés dans la chambre forte n'ont jamais été retrouvés. Et que les voleurs n'ont jamais divulgué d'informations qui pourraient conduire à leur emplacement. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où ils se trouvent. Notar Bartolo, il a été interviewé pour le magazine Wired et il a donné pas mal de détails sur le braquage. Il a également affirmé que le groupe avait été engagé par un marchand de diamants juif qui avait financé l'opération. L'accord, c'était que le marchand y prendrait un tiers du butin et que le groupe se partagerait le reste. Le marchand de diamants aurait aussi bénéficié de ce braquage car il prévoyait de faire une fraude à l'assurance. Par contre, on ne sait pas si ce que dit Notar Bartolo dans cette interview, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ce qu'on sait, c'est que la chambre forte, elle n'était pas assurée au moment du vol, mais que peut-être certains propriétaires, donc peut-être le marchand de diamants, peut-être certains propriétaires avaient des coffres, eux, qui étaient assurés. En tout cas, ils avaient peut-être assuré leurs biens. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce vol n'en demeure pas moins le plus grand braquage de diamants de l'histoire. Son exécution a été patiemment planifiée et parfaitement exécutée. Les membres de l'école de Turin auraient sûrement pu s'en sortir si leurs actions n'avaient pas été si désorganisées après le braquage. Enfin, si Speedy n'avait pas flippé, en fait, hein, finalement. Hein.
Non, mais ça allait tellement bien.
Et le truc, c'est qu'en plus, les autres membres n'étaient pas pour Speedy, tu vois. Et... En fait, ils avaient tous des spécialités. Et celle de Speedy, c'était d'être un ami d'enfance, en fait, de Notaire Bartolo, quoi.
C'est tout.
Ouais. Mais du coup, un ami de confiance, j'imagine, tu vois.
Ouais.
Je pense qu'il lui faisait méga confiance. Il reste donc trois grandes questions dont on n'a toujours pas la réponse. La première, c'est qui a financé le braquage ? Je vous rappelle que le groupe avait assez d'argent quand même pour se construire une réplique de la chambre Ford grandeur nature. Il fallait également financer les frais pour la fausse entreprise. Donc 700 euros par mois, rien que pour avoir accès à la, chambre, à la vraie chambre Ford, du coup,
ouais.
x 18 mois. Hein. Le deuxième point sans réponse, bah, c'est toujours l'identité du roi des clés. Il n'a jamais été interpellé. On sait juste qu'il était plus vieux que les autres membres. Comment a-t-il échappé à la police alors que tous les autres ont été appréhendés ? Est-ce qu'il est encore en vie ? Si oui, est-ce qu'il sait où sont les diamants ? Et bien sûr, la question à 100 millions, où se trouve le butin ?
Où sont les diamants ?
Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, merci Xara pour la co-animation.
C'est un plaisir. Merci beaucoup de l'invitation.
Et où est-ce qu'on peut te retrouver, tiens, sur les internets ? Il me semble que tu as une chaîne Twitch. C'est un peu notre joke à chaque fois.
Oui, j'ai une chaîne Twitch. Donc, la dernière fois, j'avais dit que j'allais me partir un stream à 30 abonnés. Je suis rendue à 40 abonnés.
Mais
j'ai
oui.
toujours pas de stream. Mais je déménage le 1er septembre et j'aurai donc l'occasion de me faire un petit studio où je vais pouvoir installer mes trucs de façon plus permanente. Et c'est là où je crois que je vais partir mon projet. Voilà. Mais en attendant, vous pouvez me suivre sur Twitch. J'ai aussi TikTok avec le même nom. Et sinon, Instagram, mais c'est un Instagram perso pour le moment. Donc, vous pouvez me suivre mes activités avec le Rendez-vous de l'étrange sur le Instagram du Rendez-vous de l'étrange.
Eh bien, c'est noté. Ce sera dans la description, tout ça, tout ça. Avant de se quitter, les petites piqûres de rappel comme d'hab. Hein. Rendez-vous de l'étrange, c'est un podcast du label Les Antipodes. Donc, n'hésitez pas à écouter nos autres productions. Comme Avant d'aller dormir, c'est Creepy. Ou encore le 3 minutes challenge. Et il y a un nouveau qui... au moment où l'épisode sort, on doit avoir peut-être 2-3 épisodes de sortie déjà du podcast qui s'appelle HVP, la légende oubliée. Donc le lien sera dans la description. Et je vous laisserai aller écouter ça. Ce sera la petite saga de l'été des antipodes, on va dire. Sinon, vous pouvez suivre le rendez-vous sur Instagram, nous regarder en live sur Twitch ou en replay sur YouTube. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à faire un tour sur Patreon. C'est à partir de 0 euros par mois, maintenant je peux le dire, c'est à partir de 0 euros par mois, juste en cliquant sur le bouton « Rejoindre la communauté ». Et si vous décidez par contre de soutenir financièrement le podcast, vous aurez accès à des bonus encore supplémentaires, comme des épisodes avant tout le monde ou des coulisses des créations. Ou encore un épisode du rendez-vous privé par mois. Et tant qu'on est dans la partie soutien, on a eu des subs pendant le live. Donc je voudrais remercier Valentine, Origin, le Goth, Raven et il me semble Valkyor 1. Et je crois que j'ai dit tout le monde. Donc voilà, encore une fois, merci à toi Xara.
C'est
à bientôt.
Un plaisir toujours.
Bah ouais, plaisir partagé. À bientôt tout le monde. On se retrouve le dernier vendredi du mois pour l'épisode privé. Ou alors le mois prochain pour le prochain épisode public. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.
Bisous, bisous.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.